Est-ce que tu peux juste te présenter à l'assistance
Donc, Edouard Nelson, je suis pasteur de l'église protestante évangélique des Ternes, dans le 17e à Paris. Je suis marié avec Laura, qui est la femme la plus merveilleuse au monde. Et nous avons 4 enfants qui ont beaucoup d'énergie. Donc, 3 garçons et une petite fille.
Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi, quand on t'a demandé de venir, tu as dit oui?
J'ai eu le privilège pendant 5 ans de servir Dieu dans le cadre du GBU. Donc j'ai eu beaucoup de week-ends comme celui-ci où j'ai vu l'œuvre de Dieu par son esprit. Et ça me semble quelque chose de très important, même d'essentiel. Donc je dirais l'occasion de participer à une telle rencontre, toujours quelque chose d'agréable et de... agréable, c'est pas le mot, passionnant. Donc j'ai dit oui parce que j'ai déjà pu connaître ces week-ends et j'ai vu que ça m'avait apporté moi-même des choses et je crois à d'autres aussi.
Cool, merci beaucoup.
Merci à toi, Marion.
Mais de rien. Alors oui, je conseille juste ceux qui sont dos à aller voir, au fait de tourner vraiment votre chaise pour éviter de vous choquer un petit peu. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le micro? Est-ce que tu peux faire un essai pour moi?
Est-ce que vous m'entendez comme ça au fond? Je peux parler plus fort.
Tu vas très timide, peut-être.
Ouais. Mais je peux aussi utiliser le micro si c'est utile. Au-dessus de 50 personnes, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un.
Est-ce que c'est branché?
Il faut que tu branches ça. Il faut que tu l'allumes. Pas sûr. Il doit y avoir un bouton on quelque part.
1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3, soleil. Faut peut-être. Ouais. Comme ça, c'est bon?
Comme ça, vous m'entendez? Ah non, c'était vous, c'était bien. Un, deux, trois, soleil?
Oui.
Un, deux, trois. Ok. Je vais demander à Dieu son aide. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ton aide. Viens à notre aide dans notre faiblesse. Par ton esprit, enseigne-nous. Parle à nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Nous te prions, notre Dieu, que ton nom soit glorifié par ce moment. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors si j'ai bien compris, le week-end, c'est le week-end sur qu'est-ce que l'homme, l'humanité, du meilleur, pour le meilleur et pour le pire, c'est ça, être humain, pour le meilleur et pour le pire. On pourrait aborder cette question de plein de manières. Qu'est-ce que l'homme, comment définir l'être humain, qu'est-ce qui est important. La réponse chrétienne la plus simple, c'est de dire qu'on a besoin, pour comprendre l'homme, de regarder à Jésus-Christ. Je ne vais pas m'excuser pour cela. L'homme par excellence, le summum de l'humanité, le sommet de ce que c'est que d'être humain, notre conviction, c'est que c'est Jésus-Christ. Ce que nous sommes vraiment, ce que nous devrions être, ce que nous serons un jour si nous lui appartenons, Jésus-Christ. Dans son humanité, il est humain pleinement, plus que nul autre dans l'histoire de l'univers. Dans son humanité, il répond aussi à deux questions essentielles pour la vie humaine. Dieu existe-t-il, premièrement? Et deuxième question, en tant qu'humain faible, où est-ce que je peux trouver de l'aide ou des forces? J'ai vu sortir un journal. Donc, Le Point a fait un spécial sur l'existence de Dieu il y a quelques mois. Et bon, il y a plein de trucs là-dedans. Y compris un article de Jean d'Ormesson, l'académicien, qui est globalement assez bien disposé envers le christianisme. C'est pas quelqu'un d'hostile, disons, il a pas mal de sympathie, peut-être ce serait le mot. Et il donne donc 10 arguments pour et 10 arguments contre l'existence de Dieu. C'est intéressant, mais dans les 10 arguments pour l'existence de Dieu, aucune mention de Jésus. Aucune. Est-ce que c'est possible de répondre à la question de l'existence de Dieu en évitant Jésus-Christ? Pas selon la Bible. Deuxième question, donc, quelle aide est-ce que je peux trouver? On peut remonter, merci. Puis-je trouver, quand je suis tenté, quand je suis faible, quand je suis humain, tout simplement, conscient de ma faiblesse? Être humain, c'est être conscient de sa faiblesse, dans un sens de notre petitesse, en tant qu'humain dans un univers énorme. Alors, je pense que ça vous dit tous quelque chose, sauf peut-être si vous êtes un jeune homme entre les âges de 17 et 21 ans, dites quelle faiblesse. De quoi parle-t-il? C'est pas grave, quand vous aurez 30 ans, vous verrez ce que je veux dire. Vous vous sentez faible? Vous connaissez la faiblesse? Bienvenue au club. Vous pensez que l'apôtre Pierre, je sais pas, c'est un fondateur de l'église, hein, l'apôtre Pierre, il était fort, n'est-ce pas? Il a passé 3 ans avec Jésus, vraiment de manière très proche. Un jour, il y a un peu de danger qui arrive, et lui et ses potes, ils courent comme des lapins. Ils ont couru comme des lapins. Tous ont besoin de l'aide face à notre faiblesse, face à la tentation, face au découragement, face aux doutes. Et la question, c'est d'où vient cette aide, où puis-je chercher cette aide? L'Épître aux Hébreux va nous aider. Je vous invite à garder ouvert, notamment maintenant le chapitre 1, les versets 1 à 4, de pouvoir revisiter ces versets ensemble, pouvoir voir ce que ça dit, pouvoir vérifier ce que je dis contre ce que dit la parole de Dieu. Une parole finale, une révélation physique et un travail fini, on va commencer avec une parole finale. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé par les prophètes à de nombreuses reprises et de bien des manières. Dieu s'est révélé. Il a fait passer des messages, il a communiqué des vérités. Il a, en quelque sorte, préparé le terrain. 39 livres dans l'Ancien Testament, plein d'histoires, un bon nombre de prophètes. Tout ça, c'est Dieu qui préparait le terrain. Et aujourd'hui, un juif orthodoxe attend l'accomplissement du Messie promis. Selon l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé pas par un message donné à un homme, mais par le Fils lui-même. Vous imaginez quelqu'un qui sonne un jour à la porte de son ami. L'ami ouvre la porte. « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» L'autre lui répond « Je t'ai envoyé un mail, un texto, une carte postale, je t'ai appelé. Ça t'étonne que je suis là ?» Lorsqu'on lit avec l'aide de Dieu ce que Dieu a déjà dit et déjà fait, les indices s'accumulent pour nous indiquer qu'il y a un projet de Dieu, un plan divin, et que ce n'est pas simplement quelque chose que nous pouvons, me semble-t-il, expliquer du point de vue purement humain. Dieu a préparé le terrain. Il a envoyé quelques cartes postales, quelques textos, quelques mails. La parole de Dieu est venue pour préparer le chemin. Et puis, elle est venue pas comme parole, mais comme fils. Parole faite chair, communication personnelle incarnée. Dieu nous a parlé dans ces jours qui sont les derniers par le Fils. C'est extraordinaire. Une parole, en quelque sorte, qui accomplit tout ce qui était venu auparavant, qui donne sens à tout ce qui était venu auparavant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Christophe Lemaître se prépare pour l'été prochain, 2012, à Londres. Ça fait des années qu'il prépare les Jeux Olympiques, ça fait des années qu'il s'entraîne. Vous savez, une fois de plus, si vous avez un jeune homme entre 18 et 21 ans, je vais juste vous décevoir un peu. Vous n'allez pas pouvoir débarquer cet été à Londres comme ça. Ah, je le sens bien. Aujourd'hui, je vais y aller. Je vais être le plus rapide. Désolé, les gars. Ça se prépare. Ça prend des années. Mais toute cette préparation prend son sens pour Christophe Lemaître pendant 10 secondes cet été à Londres. Il y a un moment où en fait la préparation tout d'un coup se révèle important. Parce qu'il y a le moment clé, le moment d'exercice, le moment de mise en réalité de ces années, ces heures, ces semaines, ces jours de préparation. La venue de Jésus-Christ, prochaine diapo s'il vous plaît, la venue de Jésus-Christ donne sens aux paroles précédentes. C'est le moment où toute cette préparation trouve son accomplissement. Dans ces jours qui sont les derniers, nous dit l'Épître aux Hébreux, Dieu nous a parlé par le Fils. Pendant des siècles, les prophètes ont parlé. Pendant des siècles, Dieu a agi en faveur d'un peuple précis. Il les a mis à part. Tout cela pour préparer le moment clé, l'accomplissement, une révélation, une parole finale en son Fils. Cette parole finale, cette parole complète, change quelque part la relation que le peuple de Dieu a avec la parole de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'autres paroles dans un sens de révélation, car il y a une révélation pas juste de mots, mais une révélation parfaite en chair et en os. Donc, quelque part, une fois que le moment est venu, il n'y a plus besoin de retourner à ce qui était avant, dans le sens où de chercher autre chose. Il me semble que nous devons, parce que Jésus, cette parole finale, avoir beaucoup de retenue par rapport à toute affirmation d'une parole prophétique de nos jours. Étant donné toute la préparation qui a été accomplie, étant donné que dans un sens, Jésus reste le centre historique et universel de la révélation de Dieu, et donc tout ce qui vient après doit refléter cela. Et dans un sens, comme les choses avant, doit nous diriger vers celui qui est le summum de la révélation de Dieu. Nous devons être très réticents par rapport à tout ce qui nous parlerait aujourd'hui de Dieu sans nous parler directement de Jésus-Christ. Tout ce qui vient après doit nous diriger vers lui. Nous sommes dans les derniers jours, selon l'Épître aux Hébreux. Dernier parce que après le don de l'Esprit à la Pentecôte, il n'y a dans un sens plus rien théologiquement à accomplir à part l'évangélisation des nations. Et on ne sait pas à quel moment Dieu décidera que cela suffit et que les nations ont suffisamment entendu l'Évangile. Nous sommes dans les derniers jours parce que Dieu a parlé par son Fils. Ces choses sont liées. Cette action de Dieu, pas simplement de communiquer un message, mais de venir s'exprimer par son Fils, s'exprimer en personne, c'est une action décisive, une parole finale, comme le sifflet de l'arbitre qui met fin au match. Plus besoin de jouer parce que la parole finale a été donnée. Une parole finale. Deuxièmement, une révélation physique. Une révélation physique. J'étais tenté de l'écrire avec un F et un I. Vous allez voir pourquoi, un travail fini après. C'est tellement génial d'avoir une révélation, pas juste d'idées, de concepts ou de mots, mais une révélation physique. Ça va rester là. Dieu a parlé en venant, en se donnant. Il est venu par le Fils qui est l'héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers, le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne, celui qui soutient tout par sa parole puissante. Le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne, une parole incarnée. Dieu existe-t-il ? Une question légitime. Le Nouveau Testament nous dit, regardons à Jésus-Christ. Et si on disait aujourd'hui, Molière a-t-il existé ? Nous avons des indices assez convaincants, pas mal de témoignages, des écrits qui restent. Je crois à l'existence de Molière passé. Mais si on était tous des personnages dans une pièce de Molière, ça serait assez compliqué. Comment savoir s'il existe ? C'est plus compliqué à ce moment-là, n'est-ce pas ? On pourrait, si j'étais un personnage dans une pièce de Molière, dire « Molière existe-t-il ? » Mais mon cadre de référence ne l'inclut pas. Sauf si Molière venait à jouer dans la pièce. Alors, c'est un peu compliqué parce que faudrait qu'il se joue lui-même. Alors que dans des pièces de Molière, Molière jouait des personnages, il était comédien avant d'être auteur de théâtre. Le premier à jouer Harpagon dans la barre, c'était Molière. Je ne vais pas vous embrouiller là. Vous avez tout compris. C'est bon, excellent. Si l'auteur vient jouer dans la pièce, c'est que il existe bel et bien. Et s'il y a celui qui est l'héritier de toutes choses, qui vient, qui est là, alors il existe. Et non seulement il existe, mais il va tout recevoir. Il est le créateur et l'héritier. Tout lui appartient. Tout a été créé pour lui et par lui. Dans cette phrase, c'est l'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Colossiens. Dans Jean 1, on découvre que tout a été fait par la parole aussi. Que ce soit Jean ou Paul ou l'Épître aux Hébreux, l'auteur anonyme, les auteurs du Nouveau Testament, tous vont affirmer de leurs propres mots que cet homme qu'ils ont rencontré, qu'ils ont côtoyé, c'était Dieu. L'héritier de toutes choses, celui qui soutient l'existence de l'univers par sa parole puissante. Vous savez, pour un juif du premier siècle qui croyait en un Dieu unique et saint, ce sont des paroles extraordinaires. Comment peut-on concilier un monothéisme avec une vraie transcendance, un Dieu qui dépasse l'univers, avec l'incarnation, un Dieu qui vient au plus près de nous. Très difficile. Il faut, alors, sans avoir les mots ni les concepts, dans un sens, commencer à saisir ce qu'on appelle aujourd'hui la Trinité. Mais tout au long de ces versets qui sont si compacts et si concis, si pleins de sens, on voit la ligne biblique sur cette question difficile, qui est une ligne biblique que je vous invite à noter et à retenir. On ne peut pas distinguer les membres, on peut les distinguer, on ne peut pas les séparer. Donc le Père et le Fils, et l'Esprit c'est la même chose, on peut les distinguer, on ne peut jamais les séparer. Les gens ont l'habitude d'utiliser des images, parfois pour essayer de comprendre la Trinité. Toutes les images comportent un élément qui est trompeur. Je préfère simplement vous dire, au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un Dieu. On ne croit pas en trois dieux, on croit en un Dieu. Mais ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on peut distinguer le Père du Fils et le Saint-Esprit du Père et du Fils. On ne peut jamais les séparer. Ils sont toujours un. Le Fils, c'est le reflet de la gloire de Dieu, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de son être. Comme comme un caractère d'impression qui laisse sa trace sur un papier. Ce qu'est Dieu, ce que Dieu est en lui-même, nous le connaissons véritablement par son Fils. Il dévoile parfaitement la réalité invisible du Dieu infiniment grand. Imaginons que vous ayez le privilège d'être amoureux et que l'objet de vos affections habite très loin. Alors, c'est magnifique de recevoir une lettre, par exemple. Puis, c'est pratique de lancer ce bruit Skype hein, et pouvoir se parler. Pas loin. On va m'embaucher bientôt pour faire des bruits. Non, c'est plus loin. Alors, c'est très bien hein, de pouvoir voir quelqu'un sur un écran. Coucou. Etc. Ça va. Mais alors, entre un message et la venue du Fils, c'est comme la différence entre Skype et avoir la personne entre tes bras. La Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous allez en parler aujourd'hui. C'est un privilège. C'est extraordinaire. Mais être créé à l'image de Dieu, c'est pas la même chose que d'avoir le Fils qui est l'expression de sa personne. Peut-être, je m'avance un peu, mais il me semble que cette réalité d'image de Dieu, c'est utile, ou ça nous permet d'imaginer l'être humain comme la relation entre la réalité d'un être humain et la réalité de Dieu, comme la relation entre une statue et la personne vivante. C'est-à-dire, nous sommes comme des statues dans le fait que la statue communique quelque chose de la réalité de la personne, et pourtant, entre une statue et la personne vivante et vraie, en chair et en os, c'est pas la même chose, hein, c'est deux qualités d'existence différentes. Dans l'incarnation, c'est comme s'il n'y a pas une statue, mais une statue vivante. Pas juste une représentation, mais une réalité existante et qui rend visible l'invisible, qui révèle quelque chose qui est, ou qui dit l'indicible presque, qui nous fait voir ce qui nous est impossible. Une parole finale, une révélation physique, un travail fini. Un travail fini. Toujours le verset 3. Il soutient tout par sa parole puissante et après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce serait bien que Dieu vienne se révéler. C'est super. Ce serait bien qu'il y ait cette parole finale, cette révélation parfaite qui accomplit la révélation. Mais ce n'est pas juste pour cela que Dieu est venu. Il est venu travailler. Il est venu agir. Et l'Épître aux Hébreux veut nous inviter à nous réjouir car il a accompli ce travail. Il a terminé ce pourquoi il est venu sur terre. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la RATP, donc les gens ne travaillaient pas assis. Il y avait une réalité d'être debout, c'était de travailler. Être assis, c'est d'arrêter de travailler. Donc, être assis, c'est le gars qui a terminé ce qu'il fait. Il a pris sa place, assis à la droite du Père, donc la place d'honneur, parce que il a terminé son travail. Il n'y a plus rien à faire avant la fin du monde. Ça veut dire que c'est réellement terminé. Qu'est-ce qui est réellement terminé? Quel était son travail? Tout simplement la purification de nos péchés. C'est tout. Mais de nos péchés, c'est tous les péchés que vous avez déjà commis, tous les péchés que vous allez encore commettre, et tous les péchés de tous les disciples de Jésus de tous les temps, dans toute leur vie. C'est assez grand comme tâche, en fait. Purifier pas juste quelques péchés, mais tous. Pas juste pour quelques personnes, mais pour un grand nombre, nous dit la Bible. Des myriades. C'est une tâche quasi infinie, dans un sens, purifier tous ces péchés. Déjà, juste les biens, ça prendrait du temps, j'ai l'impression. Pour un travail fini, pas mal comme travail fini. On peut le dire ainsi, si on saisit ce que nous disent ces mots. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est assis. Le Fils de Dieu est assis, c'est une bonne nouvelle. Il a terminé. Tout est accompli. Il ne reste plus rien à accomplir. Il a terminé le travail de purifier les péchés, donc de nous libérer de ce poids insupportable, de nos fautes, de l'injustice à laquelle nous participons, du mal qui est dans nos cœurs, sur nos lèvres, et parfois même entre nos mains. Si c'est un travail fini, si Jésus-Christ est mon Seigneur, si je l'accepte en tant que Fils de Dieu et Maître de l'univers et mon Maître, alors je n'ai plus besoin de chercher à me purifier. Plus besoin de chercher à me justifier, plus besoin de chercher autre chose pour être complet, pour être réconcilié, pour être pardonné. À tant de niveaux, ces vérités ont besoin de s'ancrer dans les cœurs des disciples de Jésus. J'aime beaucoup ce film « Les chariots de feu », l'histoire d'hommes qui couraient... Alors, il y a des courses de sprint, hein, 100 mètres, 200, 400. Dans le film, il y a un homme qui s'appelait Harold Abrahams, qui était donc juif, qui est aussi coureur, et qui parle de ce problème d'avoir à donner sens à se justifier. Je vous cite ce qu'il dit dans le film. « Je vais lever les yeux et je vais regarder le long de la piste, 1,50 m de large. » Et j'aurai 10 secondes solitaires pour justifier mon existence. Mais est-ce que j'y arriverai ? Fin de citation. 10 secondes solitaires pour justifier son existence. Si j'ai compris que Jésus le Fils a accompli la purification de mon travail, la purification de mes péchés, que le travail est fini, je n'ai plus besoin de rechercher dans une pratique religieuse ou dans un exploit sportif ou dans une réussite d'examen ou cette relation idéale. Je n'ai plus besoin de chercher à justifier mon existence ni à chercher quelque part une assurance d'une purification de mes péchés. Ce travail fini, en fait, nous est... plus expliqué dans le chapitre 2, je vous invite à avancer vers cela, donc chapitre 2, versets 5 à 18, où l'on découvre que ce Fils de Dieu, cette parole finale, est un homme perfectionné. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, en effet. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Là, il est en train de parler donc de l'homme. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. L'auteur aux Hébreux médite le psaume 8. Dieu a tout soumis à l'homme. L'homme est le sommet de la création, mais on ne voit pas encore. Est-ce que le monde est soumis réellement? à l'homme. Est-ce que notre maîtrise de la création, elle est ce qu'elle devrait être? Moi, j'arrive même pas, quand je veux frapper la balle de tennis croisée, à m'être sûr qu'elle va croiser et pas le long de la ligne. Donc, j'ai du mal à maîtriser la balle de tennis. Pour d'autres choses dans ce monde, c'est encore plus dur. Nous ne maîtrisons pas ce monde. Le psaume nous parle en fait de l'homme tel qu'il était censé être, l'homme parfait, l'homme de Genèse 1 et même 2. Il y a donc un lien. Le psaume 8 est en train, dans un sens, de méditer sur l'homme créé, Genèse 1 et 2. Et Hébreu revient sur la méditation du psaume 8. Vous allez voir plus tard ce lien entre donc Genèse 1 et 2 et l'homme créé à l'image de Dieu avant le péché et la chute. On a l'occasion d'en parler plus tard. Jésus, lui, est quelque part celui qui est le maître de tout. Qui n'aurait pas de problème à soumettre la création à lui-même, celui qui a été perfectionné. Verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Jésus a été perfectionné. Oula. Jésus a été perfectionné. C'est un peu plus littéral. Qualifié parfaitement. C'est une bonne traduction parce que cela communique le sens. C'est rendu parfait. Rendu parfait en vue de sa vocation, de son appel, de sa mission, de ce qu'il est appelé à faire. Comment? En vivant la vie d'un homme et notamment par des souffrances. Voilà comment il a été qualifié, rendu capable d'accomplir sa vocation. À la fac de TOGT, le prof que j'ai eu pour faire des études dans l'Épître aux Hébreux avait passé des années, en fait, il avait fait son doctorat sur le concept de la perfection dans l'Épître aux Hébreux. Et il nous a convaincus qu'il y a principalement dans ce mot de perfectionnement, de vocation, pardon, dans ce mot d'être qualifié parfaitement, il y a un élément vocationnel, c'est-à-dire il y a un appel auquel, ou une mission à laquelle Jésus doit répondre. Et pour cela, il a besoin de passer par la souffrance, de vivre une humanité qui va jusque dans un sens le plus bas de ce que nous pouvons vivre et connaître. Jésus devait être qualifié parfaitement, rendu parfaitement apte pour sa tâche, la purification de nos péchés. Nos péchés, je veux dire, les péchés de tous les croyants de tous les temps, d'Adam et Noé, Abraham, jusqu'à ceux qui seront les derniers chronologiquement à entrer dans le royaume à la fin des temps. Jésus devait pour cela vivre une vie humaine pleine, la vie quelque part que nous devrions vivre. Dans le psaume 8, il y a cette idée de l'homme comme celui qui est abaissé en dessous des anges, mais pourtant couronné de gloire et d'honneur, car il règne sur la création. La réalité, c'est que notre règne, qui devrait être bienfaisant, est souvent néfaste. Nous régnons, mais de manière inadaptée et souvent malfaisante. Notre règne sur la création n'est pas ce qu'elle devrait être. Cela, parce que nous sommes avec Adam, dans cette humanité qui s'égare, qui est tombé. L'image de Dieu brisée par le péché en Adam, c'est notre réalité. Mais il y a un deuxième Adam, un homme véritable, qui accomplit le psaume 8 en régnant puissamment en serviteur, qui exerce un règne, un pouvoir réel et extraordinaire, pas pour lui-même, mais pour le bien de toute la création. Et l'image de Dieu brisée en Adam est restaurée en Christ, retrouve son unité, sa cohérence. Jésus était tenté de faire autrement. Nous allons lire la tentation dans le quatrième chapitre de l'évangile de Matthieu. la tentation notamment d'utiliser sa situation, son pouvoir, sa puissance et l'autorité qu'il a reçue pour lui-même, pour une gloire resplendissante. Il a tenu bon. Il est allé jusqu'à la mort. Il ne s'est pas installé comme empereur du monde, comme il aurait pu le faire. Et donc, il a été perfectionné par ce qu'il a vécu pour son rôle de purifier les péchés. Il est donc couronné de gloire et d'honneur. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort puissante. Une mort puissante. C'est la clé, la mort de Jésus. Adam a été tenté, il a désobéi. Et le résultat, c'est la mort qui est partout. Jésus tenté, obéit, tient bon, il va jusqu'à la mort. Et donc par souffrance, humiliation et mort, il est rendu parfait, il est le purificateur. Et sa mort et ses souffrances suffisent pleinement pour purifier tous les impurs, pour enlever toutes les tâches du mal qui nous souille, pour répondre à la juste demande de Dieu de châtiment ou de récompense, en quelque sorte, pour le mal. Une vie parfaite et une mort parfaite qui font qu'il est le sauveur parfait. Il a vécu la vie que nous devrions vivre, il a subi la mort que nous devrions subir. Et par cela, il rend impuissant, verset 14, celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a rendu impuissant celui qui a ce pouvoir d'accusation contre les pécheurs, Satan, l'accusateur. La mort puissante de Jésus est incroyablement puissante, car elle libère de la mort réellement, mais aussi de la peur de la mort. Plus besoin d'être esclave de la mort ou de la peur. La mort de Jésus a tué la mort. Je vais vous donner une citation un peu longue. Je vous fais confiance. Il y a des mots dans cette citation que peut-être vous ne connaissez pas. C'est pas grave. Un certain Jean Calvin était théologien en France et à Genève au XVIe siècle. Il a écrit « L'épître à tous les amateurs de Jésus-Christ ». Amateurs, c'est personnes qui aiment. Et même tout ce qui se pourrait penser ou désirer de bien y trouver en ce seul Jésus-Christ. Car il s'est humilié pour nous exalter. Il s'est asservi pour nous affranchir. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre. Il a été fait malédiction pour notre bénédiction, oblation de péché pour notre justice. Il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie, tellement que par lui, rudesse est adoucie, courroux apaisée, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, mépris méprisé, crainte assurée, dette quittée, labeur allégée, tristesse réjouie, malheur bienheureux, difficulté facile, désordre ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujettie, menace menacée, embûche débuchée, assaut assailli, effort efforcé, combat combattu, guerre guerroyée, vengeance vengée, tourment tourmenté, damnation damnée, abîme abîmé, enfer enferré, mort morte, mortalité immortelle, bref, miséricorde a englouti toute misère et bonté toute malheureté. On pourrait continuer, parce que la réalité de l'accomplissement de la mort de Jésus-Christ est quasi infinie. Cette mort satisfaisante, cette mort toute puissante. Satisfaisante notamment parce qu'elle satisfait la juste colère de Dieu. Verset 17. Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ce mot, en fait, nous parle de l'apaisement de la colère de Dieu, de la satisfaction d'une justice divine qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. à cause de nos fautes, à cause du mal que nous faisons à nous-mêmes, aux autres, à la création, nous sommes redevables devant Dieu. Même nous sommes redevables au-delà de ce que nous pouvons payer. Nous avons besoin de la mort de Jésus-Christ. Peut-être une façon de comprendre cela, je vous invite à imaginer une situation improbable et théorique où j'aurais dit quelque chose de déplacé ou agi de manière égoïste par rapport à ma femme, théoriquement. Et donc, peut-être elle pourrait se sentir un peu fâchée contre moi, avec une bonne raison. Et à ce moment-là, si j'arrive à le réaliser, y penser, et par un miracle, j'agis dans le bon sens, je vais acheter des fleurs. Et je peux lui proposer des fleurs, lui donner des fleurs. Et les fleurs ont cette puissance d'apaiser. Alors le mot biblique c'est propitier, voilà, c'est la propitiation. Si vous avez compris les fleurs pour l'épouse fâchée, vous avez compris la propitiation, voilà. Dieu est satisfait, pas par des fleurs que je pourrais lui offrir, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Parce qu'il est de nature parfaite, parce que sa vie parfaite l'a qualifié, sa mort est pleinement satisfaisante. Et donc, tous ceux qui s'accrochent à lui, ce Jésus, sont libérés de la mort, libérés du pouvoir de la mort, libérés des accusations de l'accusateur. Satan qui utilise la mort comme arme de destruction massive. Mais plus maintenant, dit le disciple de Jésus qui a saisi l'épître aux Hébreux. Plus maintenant, car la mort puissante de Jésus m'a libéré. Certains, peut-être certains d'entre vous, vivaient l'école comme un plaisir et les vacances comme un fardeau. Ce n'est pas mon cas. Moi, je me rappelle, je sais pas, je pense même à déjà 7-8 ans, je me rappelle de la sonnerie de ce dernier jour avant les grandes vacances. Et quand on partait en courant et on sautait dans la cour de l'école et on criait « Allô les vacances !» Ouais. La liberté. Et puis à mon époque, on avait 3 mois pleins. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et à 8 ans, 3 mois, c'est l'éternité. Ça, ouais. On voit pas la fin. 3 mois, c'est... J'ai jamais retrouvé l'école, c'est génial. Trop bien. Quelle libération. Libre. Plus de devoirs, plus de profs sévères, plus d'embrouilles entre les camarades de classe, plus de tout ça. La mort de Jésus libère de la mort, de la culpabilité, du diable, de ses accusations, du mal et du jugement de Dieu. Une mort puissante. Enfin, une compassion profonde. Par conséquent, verset 17, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion, fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Plein de compassion, une compassion profonde. Cette compassion vient en partie de sa qualification, de son perfectionnement, en devenant semblable à tous ses frères. Il ne devait pas aider des anges. Hein. Dans les premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, on découvre que Jésus est beaucoup plus grand que les anges. Rendre un culte aux anges est assez minoritaire aujourd'hui, même s'il y a des gens qui se sont déjà croisés des livres, d'ailleurs même des personnes qui avait un peu cette approche-là, la Bible va dire non, il n'y a pas à rendre culte aux anges parce que Jésus est tellement plus grand. Mais il n'est pas devenu ange pour sauver les anges. Il est devenu homme pour sauver les descendants d'Abraham. Il fallait qu'il soit incarné en homme, pas incarné en spirité, en ange. Il a souffert, il a connu toute la condition humaine, ses peines et ses douleurs. tout jeune enfant, il a été réfugié. Ses parents ont eu à fuir par peur d'être massacré. Il a été séparé de ses parents pendant plus de 24 heures, lorsqu'il avait 12 ans. Il a subi des moqueries, des insultes, même de la part de sa famille. Il a parfois pleuré, il a eu faim, il a été fatigué, il a eu soif, il a été renié par ses plus proches, il a été accusé d'être possédé, été trahi par ses copains, il a été abandonné lorsque sa vie était en danger, il a été fouetté, battu et insulté, on l'a craché dessus, exécuté et probablement asphyxié. Il est mort à 33 ou peut-être 37 ans. J'en passe. On peut ne jamais dire à Jésus-Christ, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que c'est de vivre ça. Cette souffrance que je connais. Je souffre du célibat. J'ai pas d'enfant. Jésus a connu la vie humaine. Il a connu notre situation de fond en comble. Nos situations de vie diverses ne l'échappent pas. Nos souffrances non plus. Nous avons un grand prêtre rempli de compassion. Et donc nous pouvons et nous devons aller à lui dans la prière, l'implorer dans notre faiblesse. Prier, ça veut dire demander celui qui peut secourir. Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Comme il a souffert lui-même, il peut secourir ceux qui souffrent. Il est un grand prêtre rempli de compassion. Son secours sera parfois surprenant. La forme, le moyen, le timing, va pas toujours être ce qu'on attend. Mais il aime nous entendre faire appel à lui. Il aime répondre à nos appels. Et lorsque nous savons que nous sommes humains, et donc petits et faibles, c'est une libération de savoir que lui, humain et Dieu, est plein de compassion et fort. Qu'est-ce que l'homme ? Regardons à Jésus. Comment vivre notre réalité de faiblesse humaine ? Implorer, exhorter, demander et prier ce même Jésus. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour Jésus-Christ, ce grand prêtre rempli de compassion. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous donnes de le contempler et en lui de trouver la réalité de ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Et par lui, que tu nous donnes l'aide dont nous avons besoin pour vivre à ta gloire, pour persévérer, pour marcher avec toi. Père Céleste, nous te bénissons pour la vie, le pardon, la purification que tu as révélée en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette parole finale, cette révélation physique, ce travail fini. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous donnes de nous réjouir en ces choses. Nous te prions, notre Dieu, pour ceux qui réfléchissent ou se posent des questions, te prions que tu te révèles à chacun et que ta vérité soit limpide devant nos yeux. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'on a quelques instants pour des questions. Quelques minutes. Si quelqu'un, notamment, aurait besoin d'une clarification, je serais heureux de chercher à pourvoir à leurs besoins. Si nous aurons dans les moments suivants plus de temps pour des réflexions à l'application concrète de ces vérités. Et c'est toujours la première question la plus difficile. Donc il faut quelqu'un de courageux pour poser la première question. Et après, c'est très facile. Salomon, t'es plein de courage, c'est génial.
Tu as utilisé le mot perfectionner, mais je suis un peu gêné parce que je vois dans perfectionner un processus qui ne commence pas par une perfection.
Qui est, pardon?
Qui qui ne commence pas par une perfection. Peut-être une imperfection, quoi. Peut-être.
Très bonne question. La seconde 21 choisit de traduire, par exemple, donc au chapitre 2, verset 10, à qualifier parfaitement. Il me semble que c'est une traduction assez juste, mais c'est plus littéral de dire perfectionner. Et c'est vrai que quand on lit que le Fils est l'expression de la personne de Dieu et le reflet de sa gloire, on dit est-ce qu'il a besoin d'être perfectionné ? Il a besoin d'être perfectionné dans le sens qu'il a besoin d'être qualifié pour le travail que Dieu lui a donné de faire. C'est-à-dire, c'est un perfectionnement vocationnel. C'est pas qu'il lui manque quelque chose en termes moral ou en termes, de puissance ou d'intelligence, mais ce qui manquait, entre guillemets, au Fils avant son incarnation, c'était d'être incarné. C'était de vivre la vie que nous devrions vivre afin de pouvoir être notre purification par sa mort. Donc, sa vie, ses souffrances et sa mort le perfectionnent, c'est-à-dire le rendent capable d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Pas qu'il n'était pas moralement parfait avant, mais il n'était pas capable, avec justice en tout cas, de pardonner nos péchés avant cela. Tu vois ce que je dis? Donc, le terme un peu théologique, c'est vocationnel, c'est pas théologique, mais c'est une perfection par rapport à son appel vocationnel dans ce sens.
J'ai chaud, excusez-moi.
La deuxième question, elle est très facile, hein, donc n'importe qui peut la poser. La première question, après, c'est difficile. Vincent.
Moi, c'est tout à fait autre. C'est pourquoi, je comprends pas quand, pourquoi cette comparaison avec les anges, en fait.
Les anges, ouais. Alors, il semble. L'épître aux Hébreux était écrit à des chrétiens, donc qui croyaient que Jésus était chrétien, des croyants en Jésus le Messie, qui étaient des juifs du 1er siècle, et qui étaient tentés d'abandonner la secte de Jésus pour retourner aux synagogues, au temple, etc. Mais pas que tentés par, le système que l'on pourrait un peu imaginer aujourd'hui. D'un judaïsme orthodoxe, où on attend encore le Messie, mais aussi tenté par des spiritualités qui étaient plus répandues à l'époque, notamment, qui allaient donner une certaine place aux anges. Et donc, pour certains, comme si les anges étaient des rivaux de Jésus, ou des médiateurs qui pourraient, on n'a pas besoin de Jésus parce qu'on a les anges qui font la médiation entre nous et Dieu, tu vois. C'est pas un problème qui est très répandu aujourd'hui, dans le sens où il y a peu, même si ça existe encore, de personnes qui vont être tentées par une sorte de culte des anges, adorer les anges, croire que les anges sont les médiateurs qu'il nous faut, etc. Mais le problème d'autres médiateurs, d'autres spiritualités sans Jésus qui nous rapprochent de Dieu, patati patata, ça bien sûr. Ça existe beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte historique par rapport à un risque d'adorer des anges qui nous paraît surprenant parce que c'est pas notre contexte pour le plus grand. Cela dit, en France, aujourd'hui, j'ai déjà croisé des gens qui ont des trucs pour des anges et trouvent que... Voilà. Donc, c'est pas complètement inconnu. Voilà. Vincent.
Pardon, mais du coup, pourquoi le texte aux Hébreux... En dehors de se replacer Jésus, les anges, le fait d'être en dessous, au-dessus ou en dessous, est-ce qu'il y a une notion derrière ça, le fait, pourquoi l'homme est censé être comparé aux anges, d'être